Seigneur, bénisse. C'est vrai que la prière, c'est une puissance. D'ailleurs, j'espère, si je suis très court ce soir, qu'on passe quand même quelques minutes dans la prière pour ceux qui sont dans le besoin. Et on verra comment Dieu va conduire. Amen. Attendez, je cherche quelque chose. Ça va. On va prier. Notre Père Céleste, c'est un moyen que tu nous as donné, que tu nous as accordé. Et si tu nous as donné ce moyen, c'est parce que tu y prêtes attention. Parce que tu ne nous laisses pas prier en vain. Tu ne nous laisses pas parler au mur. Lorsque nous t'adressons la prière, c'est vers toi qu'elle va. Et nous te l'adressons dans les conditions que tu nous as données. Certainement, elle arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Et tu en prends compte. Et tu exauces. Ô Seigneur, notre Dieu, et tu nous apprends, quand nous n'arrivons pas, quand nous ne savons pas prier, tu nous l'apprends. Bah, le Saint-Esprit vient nous aider et nous remplir la bouche de telle manière que nous te demandions des choses qui te sont agréables, des choses que tu aimes exaucer. Que tu bénisses tes enfants ce soir, bénis ceux qui n'ont pas pu venir, c'est un jour de travail, beaucoup ont travaillé. D'autres sont empêchés, ils sont malades, d'autres ont voyagé peut-être. Nous te les remettons tous entre tes mains. Tous ceux qui invoquent ton saint nom en quelque lieu que ce soit, pas seulement dans cette assemblée locale, mais partout où on sait que Jésus-Christ est le Seigneur et Maître, le Créateur des cieux et de la terre. Nous te demandons ce soir de nous aider, de nous assister en nous pardonnant nos péchés. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Que nous inspire la prière, que tu nous inspires à la prédication ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors nous allons lire dans Hébreux chapitre 9. Versets 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Nous te voulons. Que Dieu bénisse sa parole, pardon. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous attarderons ce soir sur, justement, ce sera le titre. Christ apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. En espérant que vous êtes de ceux qui l'attendent. Vous l'attendez?
Amen.
Ça, vous avez raison de l'attendre, parce qu'il ne déçoit jamais. Il ne décevra jamais les siens. S'il a dit qu'il vient, il viendra. Et il nous a dit, il est celui qui doit venir. C'est une obligation. Il doit venir. Donc on ne peut pas nous dire que Jésus-Christ ne viendra plus. N'est-ce pas? Il y en a qui attendent le pape demain, ici en Belgique. Ils hésitent, ils ne sont pas certains s'il viendra. s'il est en bonne santé ou pas. Comme eux-mêmes ils disent, ils touchent du bois, n'est-ce pas, pour que le pape vienne. Mais nous ne touchons pas du bois. Nous savons que Christ, c'est le maître de la santé. Nous savons que Christ, c'est lui qui nous tient dans sa main, il tient notre santé et il est certainement dans la santé pour venir nous prendre comme il a promis. Il a promis, cela arrivera certainement. Et il nous a dit quand il viendra. Il nous a dit, en tout cas, ceux qui l'attendent aujourd'hui, nous l'attendons parce que nous sommes prévenus qu'il vient. Alors ceux qui sont dans les problèmes doivent être contents parce que la personne qui résout les problèmes vient. Amen. Et ceux-là qui l'attendent pour leur salut, eh ben, ils connaissent les signes de son avènement. Ils savent discerner les signes de son avènement. Ceux qui ne l'attendent pas ou qui ne savent pas l'attendre, ceux qui l'attendent de la mauvaise manière, eux ne savent pas discerner les signes des temps. Dans Matthieu 16, le Seigneur réprimande les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, verset 1er, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin vous dites il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous pouvez dire la météo, n'est-ce pas? Parfois, avant de sortir le matin, vous regardez par la fenêtre s'il faut prendre son parapluie ou pas, n'est-ce pas? Eh bien, ça, tout le monde sait faire. Mais maintenant, les pharisiens, les sadducéens, ils ne peuvent discerner les signes des temps. Mais nous, nous savons, nous pouvons discerner les signes des temps, dans la mesure où, lorsque nous lui avons posé la question, quel sera le signe de son avènement, il a répondu à notre question. Quand les disciples lui ont posé la question, il a répondu à cette question. Matthieu 24. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre, n'est-ce pas, qu'il ne soit renversé au sortir du temple? N'est-ce pas? Du temple. Quand est-ce que cela arrivera? Eh bien, ça, c'est une question à laquelle nous ne nous retarderons pas parce que ce n'est pas le sujet ce soir. Il y a une deuxième question qui vient, et quel sera le signe de ton avènement? N'est-ce pas? Ça, c'est notre sujet de ce soir. Et troisième question, quel est le signe de la fin du monde? Il y a trois questions que les disciples lui ont posées ici, et dans ces trois questions, il va y répondre. Et il a donné les signes de son avènement. Il les a donnés. Ils sont là dans Matthieu 24. Nous pouvons les lire, nous les avons déjà lus, n'est-ce pas? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Toutes ces choses se déroulent devant nous, ça se passe devant nous. Hein, verset 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, nous voyons, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parce que sa venue est comparée aux douleurs de l'enfantement. N'est-ce pas? Il y a des choses qui se passent de plus en plus difficiles à supporter. Tellement ce sont des choses qui font mal, n'est-ce pas? Il y a des catastrophes. Il y a eu, comment il s'appelle encore? Il y a eu Boris du côté de l'Est, n'est-ce pas, là-bas? Il y a un autre qui a tourné maintenant en tempête, en petite tempête, je ne sais plus comment ça, John, je crois. Quelque chose comme ça. Hein, on leur donne des noms et il y a d'autres catastrophes. Hein. Lorsqu'on regarde en France, il y a des inondations soudaines et toutes ces choses, tout cela, ce sont des écritures sur la muraille qui font que vous qui croyez, vous pouvez lire cela. Mais les Nebuchadnezzar et tous les autres, là, dans leur cour, ils voient cette écriture. Parce que l'écriture était visible pour tout le monde. Et Nebuchadnezzar a demandé, enfin Belshazzar, il a demandé qui pouvait lui lire ça. On a appelé les sages, comme aujourd'hui on appelle des sages, on leur demande comment expliquer que toutes ces catastrophes arrivent. Oui ? Non, on leur demande d'expliquer cela. Mais eux, ils n'ont pas d'explication. Hein, mais vous, vous l'avez. C'est une occasion de louer Dieu. Vous l'avez, vous avez cette explication. Le monsieur qui viendra avec sa blouse blanche et sortant de son laboratoire, faisant le malin devant le micro de la télé, n'est-ce pas, le micro et la caméra, eh bien, il va vous sortir tout un tas de termes, des tremblements de terre, de déplacements, de plaques tectoniques, de tout ça. Ça, on n'a pas besoin de comprendre tout ça. Pour nous, c'est tout simple, Jésus vient bientôt. Ça va ? Jésus vient bientôt et c'est une certitude. Et ça nous rassure, ça montre qu'effectivement, il vient bientôt. Hier, on m'appelle, j'étais à la maison, moi j'étais en haut, on m'appelle. J'étais en train de regarder un reportage. Non, c'était des informations en France. Et on montre une mère qui a complètement disparu. Une mère qui a complètement séché. Et on voit vraiment l'endroit. La mère a complètement disparu. À cause de l'activité humaine, à cause de réchauffement climatique, à cause de toute une série de choses. Une mère qui existait, je ne sais même pas si cette mère est mentionnée dans la Bible, ça, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je regarderai, je vous le dirai. Mais cette mère-là, elle a complètement séché. Et il y en a une qui est en train de sécher, c'est une mère que nous connaissons, c'est la mère morte. Elle aussi, elle est en train de sécher, et tout ça, c'est aussi à cause de barrages qu'on est en train de faire, on détourne des fleuves qui se jettent dans la mer, dans les mers en question, et finalement, l'eau n'y arrive plus. Et donc, la terre est en train de changer, mais est en train de devenir désertique. Mais si nous regardons les promesses quant à sa venue, c'est que les déserts seront changés en étang. N'est-ce pas ? Ça les inquiète, eux, mais ça ne nous inquiète pas. Alors, ils sont là, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Nous apprenons à nos enfants ce qui va se passer. Ce que Christ vient, ce qu'il fait de nos enfants, ils n'ont pas à s'inquiéter. Et ne nous inquiétons pas pour nos enfants non plus. En espérant qu'ils croiront. Amen. Donc, pour ceux qui attendent sa venue, ceux qui l'attendent pour leur salut, eux, il n'y a pas de surprise. Ils sont prévenus. Ils connaissent les signes. Alors, pour nous, notre problème principal, c'est quoi ? C'est d'être prêt quand il viendra. Ça va ? Puisqu'il ne vient pas juste pour vous dire, bon, voilà, c'est moi, je suis venu. Il vient nous chercher. Et comme il vient nous chercher, nous devons être prêts à partir à sa rencontre. Ça va ? On s'est gardé clean pendant tout ce temps-là, pendant qu'on l'attendait. Comme les vierges dans Matthieu 25, elles se sont bien gardées clean, n'est-ce pas ? Elle l'attendait, et l'époux tardait. Ben, j'aime bien cette phrase, un tel tardait. Chaque fois que ça tarde, il y a toujours des problèmes. Vous voyez les gens qui s'agitent, qui abandonnent, ou qui s'écartent du droit chemin, comme Moïse quand il a tardé sur la montagne, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le veau d'or en bas. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons à faire ? Nous devons avoir nos lampes avec nous. Dites amen à ça. La lampe, c'est quoi ? La lampe, c'est la parole prophétique. La parole prophétique à laquelle vous avez cru, n'est-ce pas ? 2 Pierre, chapitre 1er. verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous faites bien de prêter attention à cette parole. Ne faites pas autre chose. Prêtez attention à cette parole prophétique. Et cette parole prophétique, elle doit être dans la Bible. C'est pour cela que nous prêtons attention à cette parole prophétique. Il ne faut pas qu'elle s'écarte de la Bible. Amen. Et nous, en tout cas, notre absolu, c'est la Bible. Et nous regardons si dans une citation, il y a, parce que la langue a fourché, il y a 700 personnes au lieu de 7000 que Dieu s'est réservé, nous prenons ce que la Bible a dit.
Amen.
Amen. On ne va pas casser les pieds des gens en disant le prophète a dit. Non, on regarde, la Bible dit. Et ce que dit la Bible, c'est l'absolu. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il n'y a pas de pire ténèbre que ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne voient plus où ils vont. Ils ne voient plus le but. Quand, spirituellement parlant, quand vous êtes là, vous ne pouvez pas voir le coin de la rue ici. Les ténèbres sont profondes. Les gens, ils font n'importe quoi, croyant qu'on ne les voit pas, mais ils sont visibles. C'est un temps sombre que nous vivons aujourd'hui. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Que Dieu nous en garde. Une prophétie, lorsqu'elle est apportée, nous la retenons telle qu'elle a été prononcée. Et l'accomplissement, c'est ça l'interprétation. Amen. On revient. Matthieu 25. Hein? Cinq d'entre elles, verset 2. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Ah! Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Donc, elles avaient des vases remplis d'huile. Ce qui fait que le remplissage d'huile est quelque chose de très important. C'est très important. Comme l'époux tardait, toutes s'assouplir et s'endormir. Donc, il s'agit pour ceux qui attendent la venue du Seigneur, la venue de l'époux, il s'agit pour eux d'être prêts. Et notre attente, bien sûr, est sous la conduite de la parole prophétique reçue en cet âge. Nous pouvons clairement voir les signes des temps aujourd'hui dans tous les domaines technologiques, n'est-ce pas ? Ces voitures autonomes qu'on nous montre à tous les salons de l'auto, nous savons que c'est un des signes, n'est-ce pas, donné en 1933, n'est-ce pas, parmi les choses qui devraient arriver. Hein? Nous suivons avec attention les élections aux États-Unis, n'est-ce pas ? Comme quoi, il y a une prophétie là-bas aux États-Unis qu'il y a une femme qui serait vice-présidente un jour, et un jour elle sera présidente. Est-ce que c'est celle-ci ou une autre ? L'accomplissement, c'est ça l'interprétation. Ça va ? Hein ? Nous, on regarde. Et d'autant plus si elle est élue présidente, celle-là, soyons encore plus attentifs. La venue du Seigneur, elle n'est pas loin. Nous n'affirmons pas que c'est elle, mais si c'est elle, l'enlèvement aura lieu sûrement. Ça va ? Là, même si ce n'est pas elle, l'enlèvement aura de toute façon lieu sûrement. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, c'est toute cette accumulation d'armes que nous voyons là-bas, du côté du Moyen-Orient, bah, c'est Israël qui est en train de se préparer lui-même ce qu'ils appellent les douleurs de l'enfantement. Il y aura un temps sombre, comme le Seigneur leur a dit, hein, n'est-ce pas? Dans Matthieu 24, le Seigneur a dit, il va se passer des choses, dans Matthieu 24, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça, c'est, nous sommes dans la grande tribulation. Or, dans la grande tribulation, si vous faites partie de l'épouse, vous n'êtes pas là. Vous êtes parti. Si vous êtes là quand même pendant la grande tribulation, ne dites pas que Dieu vous a menti. L'enlèvement a eu lieu. Ça va? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et en tout cas, ce qui est sûr, je n'y serai pas. Et moi, ma prière est que vous n'y soyez pas. Amen. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Hein? Mais je crois que par la foi, Dieu ne décevra jamais notre foi. Si nous avons la foi que nous partirons certainement. Vous savez, c'est les choses qui sont dans... Toutes ces ogives nucléaires qui sont en train de préparer, bah, ça nous préfigure des drames du genre que nous voyons dans Zacharie, n'est-ce pas? Par exemple, dans Zacharie 14, n'est-ce pas? Où il nous est dit, verset 12, « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. » Et ils sont nombreux. Hein? Hier, c'était les Palestiniens, hein, n'est-ce pas? Le Hamas, n'est-ce pas? Ils étaient en train de se battre contre le Hamas. Aujourd'hui, il y a le Hezbollah qui s'est mêlé à cela. Le Hezbollah, ce sont des Libanais. C'est le Liban. Et l'Iran est celui qui les supporte. L'Iran, quand vous regardez la Bible, c'est la Perse. Et ils sont là, ils nous montrent fièrement leurs armes nucléaires, mais c'est quelque chose de monstrueux, le nucléaire. C'est monstrueux. Alors, voici les plaies qu'il y aura. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Dans l'Apocalypse, il est dit, il y en a qui vont appeler la mort, mais la mort elle-même, elle va se cacher. La mort, c'est quelqu'un. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Oh. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Ça, c'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas. Ceux qui ne connaissent pas ces choses, eux, ils s'inquiètent. Nous savons que Jésus vient bientôt. Alors, ces signes que nous voyons, ces signes arrivés, nous voyons se produire, ils sont là, n'est-ce pas? C'est un véritable appel qui nous est adressé, un appel à sortir du monde. Hein, comme il est dit dans 2 Corinthiens 6, donc sortez du milieu d'eux. Sortez, ne faites pas ce que le monde fait. 2 Corinthiens 6, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, Jésus a dit, mais vous n'êtes pas du monde. Comme lui n'est pas du monde. Il nous a donné sa parole et le monde nous a haïs parce que nous ne sommes pas du monde. Comme lui n'est pas du monde. 2 Corinthiens 6. Verset 14. Surtout dans ces temps-ci, ne vous mettez pas avec les infidèles. Dites amen à ça.
Amen.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas. Quand la lumière est là, elle chasse les ténèbres. Quand les ténèbres sont là, eh ben, la lumière n'est plus là. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, merci Seigneur, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alors, celui qui dit que les femmes doivent se taire, mais je vois difficilement qu'une femme se taise lorsqu'on dit « Vous serez pour moi des filles, hein ?» Amen. On dit « Amen » quand même, n'est-ce pas ? Amen. Gloire à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, bon, avant d'arriver là, nous devons savoir que ceux qui l'attendent sont ceux, ils l'attendent pourquoi ? Ils l'attendent pour leur salut. Donc ce sont ceux qui doivent hériter du salut, n'est-ce pas ? Ce sont ceux-là qui l'attendent. Parce que ceux qui n'espèrent pas en ce salut, ils n'ont aucune raison de l'attendre. Dieu nous sauve, salut donc, Dieu nous sauve justement pour que ces ogives nucléaires qu'ils sont en train de préparer là-bas, où l'autre avait menacé Macron en disant en 12 minutes je suis chez toi, eh bien, nous, que nous ne soyons plus là. Que Dieu nous prenne, que nous soyons tout à fait hors de portée. Ils n'ont qu'à se débrouiller entre eux. C'est que lui ne comprend pas, c'est que quand il bombarde le pays qu'il est en train d'envahir là, s'il bombarde ça avec du nucléaire, ça va revenir chez lui. Parce que le nucléaire ne connaît pas la frontière. Hein. Amen. Dans Hébreux chapitre 1er, lire le tout. J'aime bien ce chapitre. On va commencer au verset 7. De plus, il dit des anges, il a fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Amen. Le trône du Fils est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour proclamer, n'est-ce pas, la liberté aux captifs. Amen. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Comme on a vu dimanche, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est Hébreux 13, 8. Et bien toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous, les anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Ce ne sont pas nos domestiques, hein, les anges. Mais ils ont un ministère à exercer en notre faveur. Amen. Ça veut dire que si moi qui dois hériter du salut, je donne un ordre à un ange, l'ange ne m'obéira pas, parce que je ne suis pas son patron. Son patron, c'est Dieu. L'ange n'obéira qu'à l'ordre de Dieu. Et Dieu veut me sauver. Alors pour me sauver, Dieu dit à l'ange d'exercer un certain ministère en ma faveur.
Oui.
Yes. Gloire à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, on allait le lire, chapitre 5. verset, allez, 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Vous connaissez la cuirasse, hein? La cuirasse, c'est un peu le gilet pare-balles. Vous avez, où on lance le javelot, et bien le javelot vient, il rebondit sur la cuirasse et il tombe. Il ne vous transperce pas. C'est la foi et de l'amour. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Parce que le diable, les javelots du diable, pouvaient avoir une cuirasse comme celle de Goliath. Le javelot du diable va vous transpercer. Vous pouvez porter ça comme vous voulez. Quand le diable va dire quelque chose, ça va vous pénétrer jusqu'au fond de vous-même, jusqu'à vous mettre en colère, jusqu'à vous faire perdre vos moyens. Mais quand vous avez la foi, il peut tout essayer. Sans la cuirasse de Goliath, il peut tout essayer. Il ne vous atteindra pas. Amen. Et le diable a peur de ces gens-là. Des gens qui ont la foi. Il fait bouhou, vous vous le regardez. Il ne vous fait pas peur. Vous savez qu'il a été vaincu à la croix. De la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. C'est ça notre casque. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Quand sa colère va frapper, cette colère ne nous est pas destinée. Ce n'est pas pour nous. Mais Dieu nous a destinés à la possession du salut. Dites amen à ça. Par notre Seigneur Jésus-Christ. N'êtes-vous pas heureux pour ça? Amen. Ceux qui attendent le salut. Ceux qui attendent le Seigneur, pardon. Oui. Le salut, c'est le Seigneur, c'est le salut. Hein. C'est ce que Siméon a dit. Le salut, c'est quelqu'un.
Oui.
Ceux qui attendent le Seigneur, donc ceux qui l'attendent pour le salut, n'est-ce pas? Ceux-là, le Seigneur les a rachetés. Vous ne vous appartenez plus. Il vous a rachetés à grand prix. Tout à l'heure, on a lu 2 Corinthiens 6. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 6. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comme on dit, on a toujours dit ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas question de dire non, Dieu voit mon cœur, hein, le raison, non. Dieu voit tout. Parce que tout lui appartient. Il n'y a pas que votre cœur qui lui appartient. Il y a votre corps lui appartient. Votre cœur vous lui appartient. Votre esprit lui appartient. Et il se charge de changer votre esprit, de vous donner un esprit nouveau. Et de répandre son esprit sur vous. Et ceux qui attendent le Seigneur, ils aiment son avènement. Nous aimons d'entendre dire que Jésus vient. Ça nous fait un de ces plaisirs que le monde ne peut pas comprendre. Il y a un prédicateur. Vous connaissez cette histoire il y a quelques années, il y a une dizaine d'années déjà maintenant, du côté de Waterloo, là-bas, qui prêchait justement la venue du Seigneur. Et on l'a accusé, je ne sais pas par qui, hein, il a été accusé Hein, que, comme quoi, ils prêchaient que Jésus venait bientôt. Alors, on en a parlé à la radio, et à la radio, ils ont dit que ce monsieur, il faisait peur aux gens, alors qu'il les prévenait d'un cataclysme qui va arriver. Non, eux, ils disent qu'il fait peur aux gens. Alors, est-ce que Jésus-Christ vous fait peur? Amen. C'est vrai que s'il vient dans son état glorifié, peut-être comme avec Jean, on va tomber à ses pieds comme mort, hein? Peut-être, oui, certainement. Si Jean, qui mettait sa tête sur son sein, est tombé, à combien plus forte raison nous? Mais quand Jean est tombé, il est venu, il a dit à Jean, ne crains pas. C'est bien moi, mais ne crains pas, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, Jean. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. J'attends sa venue. Quel jour glorieux. Quel jour de gloire quand Jésus viendra. Ah, ce jour-là. Peut-être que ce jour-là, je saurai chanter. Amen. Dans 2 Timothée 4, l'apôtre Paul dit, il dit au verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit ça après être passé par des moments excessivement difficiles. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et regardez, il aimait tellement Timothée, comme nous, nous nous aimons tellement. Nous ne voulons pas qu'un de nous manque. Lorsque nous partirons, Paul ne voulait pas que Timothée manque. Le ciel sans Timothée, pour Paul, ce n'est pas vraiment le ciel. Timothée lui manquerait. Alors il lui a donné plein de conseils avant de dire ça. Il lui dit au chapitre 2, il lui dit au verset 22, il dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis ça. J'aimerais t'avoir avec moi là-bas. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, recherche la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Les discussions là, laissez les gens qui aiment discuter, laissez-les discuter. Vous, votre problème, c'est d'attendre le Seigneur. Pendant que vous l'attendez, repoussez les discussions folles et inutiles. Ça ne vous amènera à rien. Supposons que nous discutions hein, avec quelqu'un, que je discute avec quelqu'un. Lui me dit que les tonnerres sont révélés, moi je dis que ce n'est pas révélé. Bon. L'un de nous deux a peut-être raison, n'est-ce pas? Mais quel bien cela lui fait-il après, si les tonnerres sont révélés ou s'ils ne sont pas révélés, quel bien cela lui fait-il s'il doit rester? Il aura passé son temps à attendre le Seigneur en discutant, à savoir si c'est révélé ou c'est pas révélé. Donc, ne discutons pas de ça. Si quelqu'un vient avec cette discussion, laissez-le discuter. Amen. Nous, on continue notre chemin. Parce que quel bien cela me fait-il de venir courir, venir vous dire, vous savez, c'est révélé. Bon, et après, est-ce que tu l'attends ou tu ne l'attends pas? C'est comme quelqu'un qui crie, il est dans la gare, au lieu de monter là-bas sur le quai, dire, le train arrive, il crie à tout le monde, le train arrive, le train arrive, mais va sur le quai. Amen. Va sur le quai. Et monte dans le train. Et non pas commencer à dire, le train, il est là, le train, il est là. Non, monte dedans.
Amen.
Nous l'attendons. Alors, ceux qui sont prêts sont ceux qui avaient une réserve d'huile suffisante. Ils avaient fait le plein avant de partir. Ils se sont arrêtés, n'est-ce pas, à une station de remplissage d'huile. Hein? Pas d'essence, on n'a pas besoin d'essence là-bas. D'huile. Pas électrique, non, d'huile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une réserve d'huile. La Bible nous montre comment les bien-aimés, Paul nous dit, comment faire la réserve d'huile. Éphésiens 5. C'est dit dans beaucoup d'endroits. Hein. Dans Acte 2, ils étaient aussi en train d'attendre la promesse, n'est-ce pas? On pourra lire si vous voulez, pour terminer. Dans Acte 5, verset 18, Éphésiens, merci, Dieu vous bénisse. Dans Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Alors, je peux de whisky, frère François. Non, ne vous enivrez pas. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
Amen.
Or, l'esprit, c'est l'huile.
Amen.
Ça va?
Oui.
Alors, vous voulez qu'on soit remplis de l'esprit?
Oui.
Voici la recette. Entretenez-vous par des psaumes. Dites amen à ça. Par des hymnes. Dites amen à ça. Par des cantiques spirituels. Ah, ce frère aime le chanter. Oui, il est en train de faire son plein d'huile. Amen. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est le conseil du Saint-Esprit au travers de l'apôtre pour que nous soyons remplis d'huile, pour que lorsque nous irons... Maintenant, nous recevons l'appel à aller... On nous dit, l'époux est là. C'est ce qui se passe dans les messages qui sont apportés. L'époux est là, allez à sa rencontre. Alors, pendant que nous y allons... Entretenons-nous, faisons le plein, que notre huile, n'est-ce pas, soit là, que nous ayons toujours cette flamme. Il ne faut pas que cette flamme s'éteigne. Si la flamme s'éteint, on ne verra plus devant nous. Ça va? Entretenez-vous. Donc, faites le plein d'huile, que vous ayez toujours de l'huile sur le chemin. Amen. C'est l'huile qui entretient la lumière, n'est-ce pas, qui éclaire notre sentier pendant que nous allons à la rencontre de l'époux. Ceux qui l'attendent, ils font le plein. Ils ne vivent que de ça. Ils attendent ça. Quelqu'un qui doit voyager demain, par exemple, il prend l'avion demain à 11h. Alors, vous voulez le voir demain, peut-être pour lui remettre un colis qui pourra remettre à quelqu'un de votre famille. La personne est d'accord, elle dit oui, d'accord. Mais écoute, je pars demain à 11h. Mon vol est à 11h. Le check-in se termine à 10h. Voyons-nous à l'aéroport. Alors, celui qui doit apporter le colis dit, je serai là à 10h30. Ah, celui qui voyage va dire, ah non, non, non. À 10h30, ce n'est pas possible parce que moi, je dois déjà être de l'autre côté là-bas. Sinon, je vais rater mon vol. Oui? Donc, ne prenez pas des initiatives qui risquent de vous faire rater votre vol. Il risque de vous faire rater d'aller à la rencontre de l'époux. Non, à ce moment-là, vous annulez tout. Demain, jeudi, je voyage, je n'ai plus de programme demain. Tous les programmes que je devais faire avant mon voyage, je préfère les faire maintenant. Ce qui est imprudent, c'est surtout de vouloir les faire demain matin, très tôt matin. Ça, c'est très imprudent. Ne soyez pas imprudent. Soyez prudents comme des serpents, comme le Seigneur nous le dit. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Et je voudrais que l'on prie un peu chacun. Que l'on prie les uns pour les autres, au milieu de nous, parmi nous, dans l'assemblée locale. Nous avons des bien-aimés qui sont dans le besoin, qui sont malades. Ils aimeraient bien louer Dieu. Ils auraient bien voulu venir aujourd'hui. Ils n'ont pas pu venir. Il y a des bien-aimés qui ont des problèmes. Ça les empêche de bien marcher. Ces problèmes les empêchent de chanter de tout leur cœur ces cantiques spirituels. Ils font remplir les vases d'huile. N'est-ce pas? Soyez remplis du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre. Peut-être vous en connaissez un qui a des problèmes parmi nous. Priez pour lui. Ou vous en connaissez deux. Prions pour lui. Nous avons un frère à l'hôpital qui nous a porté même la parole ici aussi. Puissions-nous prier également pour lui. Mettons-nous un peu tous ensemble et prions le Seigneur. Prions. Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. C'est vrai, nous sommes dans l'attente aujourd'hui, mais nos cœurs sont dans les désarrois lorsque nous voyons des bien-aimés qui auraient bien pu être parmi nous ce soir, avec lesquels nous serrions les coudes pour pouvoir nous attendre à ta venue, cette venue que tu nous as promise depuis longtemps. Oh, le Seigneur, avant de partir, il s'inquiétait auprès des disciples. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Oh, donne-nous cette foi dont nous avons besoin, cette foi dans l'attente de la venue du Seigneur, avec cette conviction, cette certitude que tu ne peux pas nous tromper, tu n'es pas un homme pour mentir. Oh Dieu, tes promesses, elles sont amen. Elles sont oui en Jésus-Christ. Fais-nous entrer en Christ, Père. Oh Dieu, baptise-nous du Saint-Esprit selon ta promesse, Père céleste. Oh, et nous venons à toi ce soir, te supplier pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre frère qui est à l'hôpital, pour nos sœurs, nos sœurs qui sont malades. Oh Dieu, notre sœur Astrid, notre sœur Isabelle, Père céleste, oh Dieu, tous ceux qui sont dans ce besoin-là. Père céleste, souviens-toi d'eux, je t'en supplie. Oh, ces choses, tu ne nous les as pas encore, tu ne nous as pas enlevées. Tant que le Saint-Esprit est là, tu agis encore. Et nous le croyons de tout notre cœur. C'est pourquoi ce soir, tu as voulu que nous puissions terminer tôt, Seigneur. Oh Dieu, afin que nous puissions élever nos voix vers toi. Souviens-toi d'eux, Père Céleste. Donne-leur la santé. Oh Père, qu'ils puissent t'attendre en faisant leur plein d'huile, en lisant, oh Dieu, des psaumes, oh Dieu, sans être distrait par quelques douleurs, sans être, oh Dieu, sans être attiré par quelque autre souffrance. Oh Père, qu'il puisse te supplier, te louer, te bénir, oh Dieu, louer ton saint nom. Oh Père, qu'ils aient cette liberté de lever la main, des mains purifiées par ton sang, vers toi, Seigneur notre Dieu. Oh Père, que tu puisses le leur accorder, Père. Père céleste, souviens-toi de notre frère Albert. Oh Dieu, il t'aimait, il t'aime beaucoup, il aime ton avènement. Il a prêché ici parmi nous. Oh Père, que tu le bénisses. Oh Dieu, que tu le guérisses, s'il te plaît. Père céleste, oh Dieu, nous souviens-toi de notre sœur Isabelle. Oh Dieu, toutes ces années passées, oh Dieu, à ton service, fidèlement, Père, en élevant ta voix, oh Dieu, en élevant sa voix, Père. Oh Dieu, prononce seulement la parole de délivrance, prononce la parole de guérison, elle sera guérie. Souviens-toi de sœur Astrid, Seigneur, qui est aussi dans ce besoin-là. Oh Père céleste, oh Dieu, cette douleur qu'elle a, donne-lui un nouveau rein. Nous croyons que tu peux le faire. Nous avons cette pleine conviction qu'un corps usé, tu es plus que capable de le remettre d'aplomb. Oh Père, que tu la ravives, qu'elle soit parmi ceux-là, oh Dieu, qui t'accueilleront dans la foi, dans la louange, lorsque ton cri retentira d'en haut. Oh Père, bénis notre sœur Astrid. Nous n'oublions pas notre frère Corneille, Seigneur, oh Dieu. Père céleste, que tu te souviennes de lui, Père. Viens à son aide, oh Dieu. Sa santé, que tu la lui rétablisses. Qu'il puisse t'attendre, Père, oh Dieu. Oh Père, qu'il puisse t'attendre, n'étant plus distrait par quoi que ce soit, mais te louant jour et nuit, oh Père, de tout son être, de tous ses poumons. Père, toi, tu peux le faire. L'homme est limité, l'homme est arrivé à ses limites. Mais toi, tu n'es pas limité. C'est pourquoi, oh, comme notre frère l'a chanté ici, Père, la prière est une puissance. Oh, que cette puissance se dégage en faveur de nos bien-aimés. Oh Dieu, et ceux que nous ne savons pas qui sont malades, mais toi, tu sais. Visite-les, Seigneur, en ce moment. Te remercions pour toutes choses et pour quelque autre problème. Nous voulons la porter à tes pieds. Nous voulons la porter devant ta sainte face. Que tu t'en souviennes, Seigneur. Oh Dieu, tu dis seulement un mot, comme tu l'as fait en faveur de ce centenier. Et son serviteur a été guéri. Oh Dieu, remplis-nous encore de ces témoignages autrefois, comme autrefois. Redonne-nous ces jours heureux quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur. Béni soit ton saint nom. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Apporte-leur la guérison. Et pour les genoux qui languissent, les genoux qui faiblissent, oh Dieu, que tu les confortes à nouveau, Seigneur. Pour les mains qui chancellent, oh Père céleste, oh Dieu, que tu les raffermisses à nouveau, Seigneur. Oh Père, et pour eux, oh, et pour ceux qui sont en pleine tempête, oh Dieu, fortifie-les, qu'ils ne fassent point naufrage par rapport à la foi. Oh Dieu, s'ils sont criblés de tous côtés, s'ils sont secoués, qu'ils tiennent ferme, Seigneur. Qu'ils tiennent ferme en toi, en Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit ton saint nom. Nous voulons venir ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme David autrefois, oh Dieu, il avait dit le combat n'était pas le sien, le combat était le tien. Il a dit à ce Philistin, arrogant, il lui a dit, toi tu viens avec ton javelot et ta lance, moi je viens au nom béni de l'Éternel des armées. C'est en ce nom-là que nous venons ce soir encore. Oh Dieu, c'est en ce nom-là que nous, oh Dieu, c'est le nom que tu nous as donné, qui est au-dessus de tout nom, que nous te demandons toutes ces choses. Oh Père, que vraiment, enlève-nous nos iniquités, selon qu'il est dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, pardonne les iniquités de mon frère, pardonne les iniquités de ma sœur. Pardonne-moi les miennes, Seigneur, pendant que nous te demandons ce soir. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, de bien vouloir avoir pitié de nous, toi qui es toujours l'homme de compassion. Nous ne sommes pas devant des souverains sacrificateurs indifférents, mais nous sommes devant un souverain, nous avons un souverain sacrificateur qui est sensible à nos souffrances. Oh Dieu, qui est sensible à nos faiblesses. Il n'est pas indifférent du tout à ce que nous souffrons. Père Céleste, c'est pourquoi nous te demandons ce soir. Viens nous en aide. Et nous te remercions pour la réunion que nous avons eue ce soir. Te remercions pour ce petit temps que nous avons passé ensemble. Nous te remercions pour ce temps que nous avons eu à penser à nos bien-aimés qui sont dans le besoin. Oh, d'autres sont peut-être dans la détresse maintenant. Délivre-les de leur détresse. Si c'est l'angoisse, délivre-les de leurs angoisses. Béni soit ton saint nom. Merci encore, Père. Merci pour cette soirée. Merci de raccompagner chacun. Oh, merci d'être avec nous et si tu tardes à venir. Nous nous attendons à toi pour ce vendredi. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.